Les cinq aspects de la femme. Leçon 1. Introduction. Le cours des cinq aspects de la femme vise à étudier tout le conseil de Dieu sur le sujet de la femme. En tant que cours, il propose une manière de voir l'homme et la femme selon le cadre que Dieu nous donne dans les Écritures. Cette leçon d'introduction présente une vue d'ensemble ainsi que l'objectif du cours en répondant aux questions suivantes. Quelle est l'origine du cours 5 aspects? Quels sont ces 5 aspects? Quels sont les principes d'interprétation biblique utilisés dans ce cours? Que peut nous apporter la maîtrise de ce cours? Le début des recherches qui ont abouti au développement de ces études remonte à mon enfance. Lors de la puberté, j'ai commencé à prendre conscience de l'existence des hommes et des femmes. J'étais particulièrement captivée par ce qui rend l'homme viril et la femme féminine. Mon père était un homme très viril et ma mère était féminine. Je constatais ces différences entre eux, ainsi que chez les autres hommes et femmes, et je les trouvais fascinantes. Je constatais également qu'il y avait entre hommes et femmes une relation magique et spéciale, un plaisir différent de celui qu'on trouve dans les autres types de relations. Je me demandais pourquoi. Qu'est-ce qui rend l'homme viril? Qu'est-ce qui rend la femme féminine? Qu'est-ce qui produit ce lien spécial entre eux? Et puis, au-delà de toutes ces questions, j'en avais d'autres. Pourquoi avons-nous une sexualité? Qui l'a faite? Et pour quelle raison? Quelle en est sa signification? Et quel en est son but? Si je devais citer un incident marquant le commencement de mes recherches, je mentionnerais une brève conversation avec mon père, un après-midi, sous le porche arrière de notre ferme. Il rentrait des champs et était en train d'ôter ses bottes à l'aide de son tire-bottes, chose que je lui avais vu faire des centaines de fois. Je lui ai posé cette question. « Papa, qu'est-ce que c'est une femme ?» Je ne crois pas qu'il ait passé toute la matinée à réfléchir à cette question sur son tracteur. Mais il a marqué une pause et regardé dans le vide, l'espace de quelques secondes. Et il m'a répondu « Eh bien, une femme, c'est une idée magnifique. » Si j'aime autant sa réponse, c'est parce que, selon moi, cette phrase à elle seule en dit beaucoup. Aucun doute dans mon esprit, ni dans celui de mon père, pour savoir de qui venait cette idée magnifique. De Dieu. Pourtant, cette réponse, aussi profonde et belle qu'elle puisse être, ne me suffisait pas. Je voulais en savoir plus à ce sujet, particulièrement en quoi consistait cette idée et pourquoi elle était magnifique. Ayant grandi dans une église biblique, j'avais reçu des bases solides au sujet du salut et de l'autorité des Écritures. Mais bien des questions relatives à la nature de l'univers et de ce qui le compose n'avaient jamais été abordées. À l'université, j'ai fréquenté une église où on mettait plus l'accent sur la théologie et l'apologétique. Dans cette église, il était très important de répondre aux grandes questions de la vie d'un point de vue chrétien. J'étais ravie de la fréquenter. Une fois mes études terminées, j'ai intégré le personnel enseignant de l'église. Pendant 6 ans, j'ai dispensé des cours aux étudiantes sur la féminité. Je m'étais fixée pour but d'enseigner au moyen de la Bible de façon très méthodique et de poser la question suivante. Qu'est-ce que Dieu dit des femmes et de la féminité dans telle partie des Écritures? On a passé une année entière en Genèse, prenant chaque verset et chaque passage qui était en rapport avec la féminité ou les femmes. Une autre année sur la loi mosaïque, une année encore dans Josué, Juges et Ruth, et ainsi de suite. Durant cette période, je suis arrivée à des vérités qui m'ont satisfaite et ont apporté des réponses à mes questions, bien au-delà de mes rêves les plus fous. Pour étudier la Bible, ma méthode préférée, c'est l'approche méthodique, c'est-à-dire quand vous la prenez précepte sur précepte, règle sur règle, que vous la lisez livre après livre et suivez Dieu à mesure qu'il développe ses idées. Les 5 aspects sont basés sur ce que j'ai appris au cours de ces années, passées à étudier la féminité à travers la Bible. Tout cela se déroulait dans les années 70, à l'ère des grands débats sur la nature des sexes et la sexualité. Le féminisme était en train de percer fortement, et l'idée qui dominait de plus en plus était que la sexualité est déterminée par la culture. C'était monnaie courante de penser qu'il n'existait pas de vérité absolue concernant la masculinité ou la féminité, puisque ces deux choses étaient considérées comme relatives et variées selon les cultures de l'époque. La virilité et la féminité n'étaient que de simples phénomènes culturels, sans absolu ni origine. Au terme de ces années, j'ai commencé à réexaminer les Écritures déjà étudiées et à me demander sérieusement si on pouvait affirmer des vérités absolues sur l'homme et la femme, et si oui, lesquelles. Je pensais qu'on le pouvait parce que Dieu est au-delà des cultures et du temps. Il est le créateur de l'homme et de la femme, et à chaque fois qu'il parle de leur nature, nous avons une vérité absolue et fiable. Je peux connaître des choses sur les femmes, celles qui sont de l'autre côté de la rue comme celles qui sont à l'autre bout du monde, même si elles sont des millions, parce que Dieu a dit des vérités absolues dans les Écritures à leur sujet. La question qui se pose ensuite est de savoir quels sont les passages où Dieu dit des vérités absolues sur la féminité. J'ai choisi 5 passages. On aurait tout aussi bien pu en prendre d'autres ou les organiser différemment. Je ne prétends pas que les 5 aspects soient le seul moyen d'examiner les vérités absolues de la féminité. Je dis plutôt que c'est un moyen de le faire qui a fait ses preuves. Beaucoup pensent que ce cours est un outil utile donnant un cadre biblique en ce qui concerne les 2 sexes. Je me suis rendu compte qu'on peut facilement organiser le reste du matériel biblique relatif à la féminité autour de ces passages parce qu'ils représentent indubitablement les grands piliers de la vérité relatifs aux 2 sexes. Vers la fin des années 70, j'ai eu la bénédiction de reprendre mes études de théologie au niveau master et j'ai fait mon mémoire de fin d'études sur la féminité. Ce fut l'occasion de lire non seulement la Bible, mais aussi ce que tous les autres disaient de la Bible. Au début des années 80, je me suis mariée avec un ami de longue date qui était pasteur. Nous nous sommes mis au travail et nous avons eu 4 filles. Chacune est prénommée d'après un des aspects. Et ainsi mon mari a eu sa propre version des 5 aspects de la femme, une épouse et 4 filles. Nous avons fait en sorte que jour après jour, je puisse continuer mes cours pour femmes, tout comme je l'avais fait dans les années 70. Pendant un certain temps, mon mari a exercé en tant que pasteur dans l'est du Texas, puis nous avons déménagé à Vienne, en Autriche, pour 4 ans, durant lesquels il a été pasteur de l'Église internationale de Vienne. À mon grand émerveillement, je me suis alors rendu compte que la question que j'avais posée à Dieu quand j'étais au Texas, qu'est-ce qui est vrai pour toutes les femmes du monde entier, question que j'avais trouvée assez académique à l'époque, était maintenant devenue une question brûlante d'actualité. Dans l'Assemblée, il y avait des femmes du monde entier, de chaque continent à l'exception de l'Antarctique. Ces années d'enseignement et de communion fraternelle avec des femmes de pays différents constituent une expérience très riche, une de celles que je chéris le plus dans ma vie. Alors donc, comment sont nés les 5 aspects ? D'une quête personnelle pour trouver des réponses aux questions de mon âme, de l'étude de la Bible et de la faculté de théologie, de mes rapports avec les femmes de mon voisinage et avec celles du monde entier, mais aussi de mon mariage, de mes enfants et de ma vie au sein de la famille élargie, du champ missionnaire et du Seigneur lui-même. C'est lui qui m'a conduite durant toutes ces années et qui m'a enseigné des choses auxquelles je n'aurais jamais pensé. Le cours des 5 aspects n'est pas parfait, mais je crois que c'est un travail biblique utile qui peut être, et je prie pour qu'il le soit, de la viande et du miel pour votre âme, tout comme c'est le cas pour moi. Nous venons de voir l'origine de ces études. Mais quels sont au juste ces 5 aspects et quels sont les 5 passages qui définissent les vérités sur lesquelles ce cours est basé? Le premier aspect est gestionnaire pour Dieu. Le premier passage qui délivre une vérité absolue sur la nature de la femme se trouve en Genèse 1. C'est un passage direct et très clair. Le verset 27 dit « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Dieu a créé l'homme et la femme et leur a donné un domaine sur lequel ils devaient régner. Il leur a donné la terre, le ciel, la mer et leur a dit d'assujettir, de dominer, d'être fécond et de se multiplier. La première image de la femme que nous voyons est celle d'une créature à l'image de Dieu, une créature créée en vue de gérer un domaine pour Dieu et de lui en être redevable. C'est le premier aspect fondamental. Je l'appelle gestionnaire pour Dieu. Les femmes ont besoin de se voir comme des gestionnaires à l'image de Dieu, responsables des domaines que Dieu leur a confiés. En Genèse 2, verset 18, nous trouvons une autre vérité absolue concernant la nature de la femme. Dieu a dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Alors, il a créé une aide appropriée qui le complète. Nous avons là le second aspect de la femme, aide complémentaire. Façonnée à partir des côtes de l'homme, elle est amenée à lui, pour l'aider et le compléter. Sous cet aspect, la femme est la couronne finale de la création de Dieu et le complément indispensable de l'homme. Ni l'homme ni son travail ne peuvent être complets sans l'aide indispensable de la femme. Si on considère Genèse 2 de façon plus générale, on remarquera que la femme a été tirée de quelqu'un pour quelqu'un. L'homme de son côté a été tiré de la terre pour la terre. Il a été amené au jardin pour y travailler et le cultiver. La femme a été amenée vers l'homme pour l'aider dans le travail et le compléter dans leur relation. Cet aspect nous montre la femme comme la couronne finale de la création et le complément indispensable de l'homme. La femme est dotée de la faculté de se concentrer sur les gens et sur les relations. Cela constitue le fondement de sa création et de son but. Le troisième aspect est dispensatrice de vie. Genèse 3 nous montre une troisième révélation relative à la nature fondamentale de la femme. Après la chute, dans le contexte de la malédiction, Dieu dit à Adam et Ève que la femme va mettre des enfants au monde. En fait, c'est de la femme que va sortir le conquérant de Satan. Tout comme la tentation est venue jusqu'à Adam par Ève, de même, Dieu utilise Marie pour mettre au monde l'auteur du salut, Christ. Tout comme la femme a été l'instrument de la chute de l'humanité, elle sera aussi celui de la victoire de l'humanité. Adam a été tellement frappé de cette révélation qu'il s'est tourné vers sa femme et l'a appelée Ève, qui veut dire vie ou vivante, car comme dit le texte, elle est la mère de tous les vivants. Adam a rebaptisé sa femme parce qu'il en est venu à la voir d'un autre œil, sous une autre perspective. La première fois, il l'a regardée comme étant tirée de lui et ramenée à lui. Il l'a donc appelée femme, tirée de l'homme. Dès lors, il la voit comme celle qui va donner la vie. C'est là le troisième aspect de la femme dispensatrice de vie. Dans cet aspect, nous allons non seulement voir la femme qui donne la vie physiquement, mais aussi la collaboration de la femme avec Dieu pour donner la vie au sens spirituel. Nous allons examiner une longue liste de dispensatrices de vie dans la Bible, certaines d'entre elles étant mères, d'autres pas. Cependant, dans la lutte contre le serpent, elles ont toutes été des collaboratrices de Dieu en donnant la vie. Ainsi, le livre de la Genèse pose les fondements dès ses premiers chapitres. La femme est gestionnaire pour Dieu en Genèse 1, aide complémentaire en Genèse 2 et dispensatrice de vie en Genèse 3. Le quatrième aspect est dame sagesse. Au fil du temps, j'ai étudié les passages qui suivaient. La fin de la Genèse, la loi mosaïque, le reste de l'Ancien Testament et le Nouveau. Pendant longtemps, j'ai vu que ces trois aspects qui étaient énormément amplifiés et développés, mais je n'ai pas vu d'image de la femme radicalement nouvelle. Cependant, en arrivant au livre des Proverbes dans la littérature de la sagesse, je me suis dit, tiens, il y a là quelque chose de vraiment inédit. Ici, on a une image nouvelle de la femme. Dans Proverbes 1 à 9, Salomon personnifie à la fois la sagesse et la folie sous les traits de femme. La sagesse est personnifiée comme une grande dame, magnifique et remarquable, l'aide et la compagne de Dieu dans la création. Elle est la réprobatrice, l'enseignante et la conseillère de l'espèce humaine, ainsi que la protectrice, l'aide et celle qui glorifie les personnes sages. La folie est personnifiée sous les traits d'une séductrice qui trompe, rend esclave et conduit ses victimes à la mort. Selon le livre des Proverbes, la vie est un choix entre ces deux femmes. En décrivant les rôles et le rapport entre la sagesse et la folie, Salomon présente un aspect nouveau et audacieux de la féminité. De ces personnifications inspirées, nous pouvons tirer des vérités nouvelles sur la sagesse et la folie, ainsi que sur la féminité. Pour cette raison, et bien qu'il soit différent des quatre autres, j'ai ajouté l'aspect dame sagesse à mon cours. Les autres aspects sont basés sur des définitions bibliques. La sagesse personnifiée, comme une femme, est un archétype de la féminité, pas une définition. La différence entre ces deux types de formes littéraires est expliquée brièvement dans la troisième partie de ce chapitre. Voyons maintenant le cinquième et le dernier aspect. Si nous regardons 1 Corinthiens 11, nous trouvons une autre vérité absolue sur la nature de l'homme et celle de la femme. Paul dit au verset 7 que l'homme est la gloire de Dieu et la femme est celle de l'homme. En image, l'homme et la femme sont pareils, mais en gloire ils diffèrent. En 1 Corinthiens 15, verset 41, Paul écrit « Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. » En d'autres termes, Dieu a donné différentes splendeurs ou gloires à différentes parties de sa création. L'une des plus grandes gloires des êtres humains, c'est la sexualité. Le fondement ultime de cette gloire est révélé en Éphésiens 5, versets 31 et 32, où Paul explique que le modèle pour l'homme et la femme au sein du mariage, depuis le commencement, c'est Christ et son Église. C'est la gloire de l'homme de représenter Christ et celle de la femme de représenter l'Église. L'image culminante de cette gloire se trouve à la fin du livre de l'Apocalypse. Là, c'est Christ, le roi, avec son épée à la main. L'Église est ornée de pierres précieuses et d'habits somptueux, blancs et purs. C'est l'image la plus vivante qui soit de l'aspect gloire de l'homme. Pour clore cette partie relative aux aspects, permettez-moi de donner une définition de ce terme. Un aspect est un point de vue, une manière de voir. Si on considère la femme dans la perspective de Genèse 1, on la voit comme une dirigeante, à l'image de Dieu. Si on la considère dans la perspective de Genèse 2, on la voit comme une aide, et ainsi de suite. Tous les points de vue sont importants, car si on en laisse certains de côté, on étrique la femme. On la diminue en faisant d'elle moins que ce qu'elle est. Par exemple, certaines des premières féministes prétendaient que le plus important est de considérer une femme comme une entité indépendante qui doit diriger sa propre vie. Sans le savoir probablement, elle mettait ainsi l'accent sur le premier aspect, mais à l'exclusion des autres. Ce point de vue fait abstraction de la corde relationnelle profonde qui existe chez la femme. La seconde génération de féministes a soulevé la question du mariage et de la famille et combien ces questions étaient importantes pour elles après avoir vécu pour un temps à leur guise. Mais si on ne considère la femme que dans la perspective où elle est faite pour l'homme et que le plus important c'est qu'elle soit jolie et mariée, alors on la réduit à un objet sexuel. Ou bien si on dit que le plus important c'est d'avoir des enfants, alors la femme est réduite à n'être qu'une mère, ou pire, qu'une usine à bébés. À chaque fois que nous laissons de côté quelques-unes des vérités absolues de la Bible, nous nous diminuons en tant que femme et nous nous détournons de tout le conseil de Dieu. Les 5 aspects sont 5 points de vue relatifs aux femmes qui se transforment en 15 points de vue. En effet, dans le cours complet, je traite chaque aspect 3 fois. Lorsqu'on aborde un aspect, on étudie d'abord comment c'était à la création. Quelle était à l'origine l'intention de Dieu pour cette partie de notre vie? Dans les leçons déchues, on examine la façon dont le péché et la malédiction ont affecté ce que Dieu a fait. Ces leçons nous aident à comprendre notre féminité et à nous préserver de ses mauvais côtés. Troisièmement, on examine la bonne nouvelle de la rédemption. On voit ce que Dieu a fait pour nous sauver et ce qu'il est en train de faire pour rétablir chaque aspect de notre féminité afin de nous amener à une féminité mature en Christ. Comprendre les 4 sortes de matériel biblique est essentiel pour comprendre ce cours. Ces différents types de littérature sont les définitions, les lois, les archétypes et les récits. Pour obtenir tout le conseil de Dieu sur n'importe quel sujet, on doit consulter toute la Bible et comparer les Écritures entre elles en dispensant droitement la parole de la vérité, comme le dit Paul. Délimiter ces différents types de littérature biblique et leurs relations les unes aux autres nous donne le cadre de l'étude des 5 aspects. Les explications qui suivent constituent simplement une brève introduction que les leçons qui suivent compléteront. Les définitions sont des vérités directes et absolues sur la nature d'une chose. 4 de nos aspects sont basés sur de tels passages. Par exemple, la femme, aussi bien que l'homme, est l'image de Dieu. La femme est l'aide de l'homme. Ce sont des vérités nettes et absolues. Les lois dans les Écritures nous donnent des règles morales absolues et des limites. Les 5 aspects ne traitent pas de l'éthique ou du comportement, mais de la nature de la femme. Nous n'étudions pas la loi en soi. Néanmoins, le cours entier admet la moralité des Écritures concernant par exemple le mariage, le divorce, la fornication, la charité envers les veuves, etc. Les histoires de la Bible sont les récits et l'histoire biblique, donnée à titre d'exemple. Les récits doivent toujours être regardés à la lumière de la loi de Dieu. Pour donner une illustration, nous savons que la foi de David est ce que nous devrions imiter et non pas l'adultère qu'il a commis. La loi éclaire ces choses-là. Pour mes études de cas, j'utilise abondamment les récits bibliques afin d'illustrer les aspects. Les archétypes bibliques sont des modèles originaux servant d'exemple. Tirés des Écritures, ils se situent au-delà des cultures et des époques. Les archétypes féminins bibliques incluent Ève, la sagesse personnifiée, Israël, Marie et l'Église. Dame Folie et Babylone, la mère des prostituées, sont des archétypes féminins du mal. Dieu utilise souvent les archétypes pour nous révéler la vue d'ensemble, en nous donnant ainsi un autre éclairage que celui des lois ou des récits. Les archétypes bibliques, autant que les histoires bibliques, sont importants dans notre étude. Les personnes qui ont un point de vue philosophique ont tendance à réfléchir en termes de catégories globales. Celles qui ont un point de vue plutôt pragmatique réfléchissent davantage aux détails particuliers et concrets. Les unes ne sont pas plus intelligentes ou spirituelles que les autres. La Bible nous donne les deux façons d'aborder les choses, et les deux sont aussi importantes l'une que l'autre. Par exemple, pour l'aspect de la dame sagesse, le livre des Proverbes, chapitres 1 à 9, nous donne des catégories universelles concernant les rôles et les relations d'une femme dans les personnifications de la dame sagesse et de la femme folie. Néanmoins, à la fin du livre des Proverbes, au chapitre 31, on trouve également la présentation d'une mère spécifique avec ses conseils et le portrait d'une épouse bien réelle. Ces femmes-là sont des exemples concrets et des représentations individuelles de la dame sagesse universelle. Comprendre cet aller-retour entre ce qui est universel et ce qui relève de l'exemple particulier est essentiel pour constituer un cadre biblique de la féminité ou de tout autre sujet. L'étude 5 aspects présuppose l'inhérence et l'autorité des Écritures, et qu'elle devrait donc être interprétée d'une façon normale. L'interprétation normale recherche pour chaque passage le sens que l'auteur avait l'intention d'y donner. L'histoire doit être vue comme de l'histoire, un fait naturel comme un fait naturel, la poésie comme de la poésie, une hyperbole comme une hyperbole. On peut faire le contraste entre l'interprétation normale et l'interprétation libérale, qui déplace la Bible de l'histoire réelle, de la science et de l'anthropologie pour tenter d'en extraire seulement des idées morales. Par exemple, selon l'école de pensée libérale, ce n'est pas important si Jésus a vraiment nourri 5000 personnes ou est vraiment ressuscité des morts. Ce qui compte, c'est que ses idées nous nourrissent et qu'il nous fait revivre aujourd'hui. L'interprétation littérale est un troisième type d'interprétation qui ne reconnaît pas les figures de style ni aucune autre convention littéraire. Si on essaye de prendre chaque mot de la Bible littéralement, les métaphores à elles seules conduisent rapidement à des conclusions absurdes. Par exemple, si Jésus est la porte, est-ce qu'il y a aussi une poignée et un seuil? Un adepte de l'école normale croira que Jésus a vraiment nourri 5000 personnes et qu'il est ressuscité des morts parce que ces passages sont présentés comme étant de l'histoire dans le texte. De même, il comprendra l'affirmation « Jésus est la porte » comme une métaphore, signifiant qu'il est le chemin qui conduit à Dieu. Finalement, pourquoi suivre ce cours? Ce n'est pas une étude sur la question d'être une femme sainte. Dans le cours, on ne met pas l'accent sur le « comment faire ». Mon but n'est pas de donner 10 leçons pour expliquer comment devenir une femme sainte, ni 8 leçons qui vous diraient comment devenir une bonne maîtresse de maison. Le « comment faire » est important, et il existe des ouvrages disponibles sur la façon de mettre en pratique les principes bibliques dans notre vie. Mais ce cours est plutôt une manière de voir. Je vais le répéter, c'est une étude sur une manière de voir. En Matthieu 6, versets 22 et 23, Jésus dit quelque chose qui nous intrigue. « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres ?» Je pense que Jésus nous parle ici de notre manière de voir les choses. Comment voyons-nous les choses? Voyons-nous que Dieu est grand, aimant et bon, majestueusement souverain, tout en étant bien disposé à notre égard? Ou pense-t-on qu'il est méchant, ou qu'il est comme un coussin psychologique, tout blanc et moelleux, qu'on serre contre soi quand on est déprimé? Comment voyons-nous les hommes, égoïstes et tyranniques, faibles et passifs, sans pouvoir même imaginer pourquoi Dieu les a créés? Et les femmes? Voyons-nous les femmes comme des citoyennes de seconde classe, fofolles et insignifiantes? Regrettons-nous que Dieu nous ait faites femmes? Si nous voyons Dieu, les hommes et les femmes de cette façon-là, c'est que notre œil est en mauvais état, et alors tout notre corps sera dans les ténèbres. Mais si nous voyons Dieu tel qu'il est vraiment, c'est-à-dire le grand Dieu majestueux, le Père aimant, le bon berger, le sauveur, le héros, si nous voyons les hommes tels que Dieu les a créés, et si nous voyons les femmes telles que Dieu les a créées, alors nos yeux seront éclairés. Notre point de vue sera différent. Et avec ce nouveau point de vue, notre capacité à être différente et à agir d'une autre façon sera nettement améliorée. Nous serons capables d'intégrer et de mettre en pratique beaucoup plus vite les principes du « comment faire » parce que notre façon de voir sera différente et nous serons nous-mêmes différentes. Il y a quelques années, une de mes amies missionnaires et anciennement officier de police m'a raconté qu'avant son 40e anniversaire, elle a fait cette prière. « Seigneur, j'ai toujours méprisé ma féminité. Je n'ai jamais été à l'aise d'être une femme. Je vais avoir 40 ans et je prie simplement que tu puisses faire quelque chose pour moi. » Dans l'année qui a suivi, une amie a partagé ce cours des 5 aspects avec elle. Depuis, elle prétend que c'est la 3e chose la plus importante qui lui soit arrivée dans la vie. Elle m'a dit que cela avait complètement transformé son point de vue sur ce qu'elle était, qu'elle n'avait jamais eu de dignité en tant que femme, mais qu'elle voyait là le plan merveilleux de Dieu et combien la femme est une créature merveilleuse. Jusque-là, elle voyait l'humanité non pas juste en dessous des anges, mais à peine plus élevée que les animaux. Alors que désormais, elle voyait sa dignité. Ayant 3 fils et un mari, elle a pu voir la dignité que Dieu veut qu'ils aient en tant qu'hommes. Elle sent et voit ce que Dieu attend d'elle en tant que femme et rayonne de beauté et de joie parce qu'elle a une vision des choses toute nouvelle. Elle voit différemment. Je mets l'accent sur le fait que cette étude est une manière de voir. Mais c'est une vision qui devrait conduire à une mise en pratique de la vie chrétienne au sens le plus profond. Jésus a dit que toute la loi peut être résumée de 2 manières. Le premier et le plus grand commandement est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, et le second lui est semblable, d'aimer son prochain comme soi-même. J'aimerais terminer en examinant comment le cours peut nous amener à vivre le cœur de cette loi, c'est-à-dire à aimer Dieu et les autres. D'abord, aimer Dieu. Le premier commandement et le plus grand est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Dieu veut que nous nous donnions entièrement à lui. Notre être complet est tout ce qu'il comporte. Cette étude peut nous donner la liberté d'aimer Dieu de tout notre être parce que nous verrons et comprendrons mieux ce que nous sommes selon le dessein créateur de Dieu. Une autre manière dont les 5 aspects vont nous inciter à mieux aimer Dieu est de vous aider à mieux le connaître, en particulier sa masculinité. Notre Dieu s'est révélé à nous en tant que « Il ». Il dit « Je suis votre père, je suis votre roi, je suis votre mari, je suis l'époux ». D'un bout à l'autre des Écritures, il nous enseigne à l'appeler « Il ». Jésus est un homme. Il est Dieu fait homme. On ne met pas le Saint-Esprit au neutre, mais c'est un « il » également. Si nous voulons être des chrétiens bibliques, nous ne devons pas être troublés par ceux qui veulent nous égarer en disant « il faut mettre Dieu au neutre » ou « Dieu est à la fois il et elle » ou encore « Dieu est notre mère ». Nous devons comprendre la masculinité de Dieu et l'aimer comme notre père, notre époux et notre roi. Cette étude va nous aider à comprendre la masculinité de Dieu et ce que ça signifie pour notre foi. On peut se poser la question, et la mère dans tout ça? Avons-nous une mère ultime? La raison pour laquelle certains veulent rendre Dieu féminin, c'est qu'ils cherchent un modèle féminin ultime. Ce cours apporte des réponses bibliques claires sur la masculinité et la féminité ultime. Nous avons besoin de ces réponses pour nous garder des erreurs doctrinales qui empoisonnent l'Église aujourd'hui, avec ce mélange des genres et l'absence de moralité sexuelle dans notre monde. Le second commandement est semblable au premier, dit Jésus. Le premier est d'aimer Dieu. Le second est d'aimer son prochain. Le prochain, ici, est de 2 sortes, homme ou femme. Comment cette étude peut-elle nous aider à aimer les hommes? Après avoir expliqué en 1 Corinthiens 11 que nos gloires diffèrent, Paul continue en disant que nous avons une interdépendance basée sur nos différences. Dans les versets 11 et 12, il dit « Toutefois dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Ève est sortie d'Adam, et pourtant les hommes sortent de leur mère. La manière dont nous sortons les uns des autres est différente, et pourtant nos vies sont liées les unes aux autres. Nourrir du mépris, de la haine ou de l'amertume contre le sexe opposé est suicidaire. Que nous soyons mariés, que notre père soit vivant ou pas, que nous ayons ou non des frères, tout notre être est lié aux hommes. et la vie des hommes est liée aux femmes parce que Dieu nous a créés pour être interdépendants. Cette étude insiste sur le fait que les femmes doivent comprendre les hommes et leur pardonner, non seulement pour leur bien à eux, mais aussi pour celui des femmes. Pour la femme, vivre en inimitié avec les hommes est une sorte de mort, tout comme c'est suicidaire pour les hommes de détester les femmes. Dieu a créé nos vies pour qu'elles soient interdépendantes. Nous pouvons monter ensemble en spirale ou descendre ensemble en spirale. Je vais poursuivre par aimer les femmes. Je suis convaincue que les pires misogynes du monde sont les femmes. De nombreuses femmes méprisent la féminité. Elles ont du dédain envers leurs congénères et elles-mêmes. On le voit à la manière dont les femmes aiment être divisées en camps opposés, avec beaucoup de comparaisons, de mesquineries et même de mépris. Ce cours s'adresse à toutes les femmes. Il n'est pas destiné uniquement aux carriéristes ou aux mères au foyer avec de jeunes enfants, aux célibataires, aux jeunes ou aux personnes âgées. J'essaye de parler à toutes les femmes de la féminité telle que Dieu l'a créée. Ma prière est que celles qui suivent ce cours se verront elles-mêmes et verront les autres femmes d'une manière toute nouvelle, comme étant des créatures de Dieu, glorieusement féminines, ayant de nombreuses facettes et étant chacune unique.